de l'émission de mouvement. Un moment qui se projette vers le haut, qui est une action. Les énergies sont attirées vers l'âme, en quelque sorte, c'est-à-dire que les feux de la matière sont attirés par le rayonnement de l'âme, qui est comme une sorte de soleil, un soleil très aimanté. Et ces feux de la matière vont essayer de remonter vers l'âme. De la même façon qu'il y a un mouvement en profondeur, pour que le développement qui soit acquis sur le seuil soit aussi acquis jusqu'à l'intérieur du temple, à l'endroit de l'autel. Parce que tout simplement, cet endroit qu'est l'autel est l'endroit où se trouve une étincelle de l'âme. C'est pourquoi il ne suffit pas d'en rester à la première enveloppe du chakra, il faut aller jusqu'au cœur du chakra. Parce qu'il n'y a que là que l'on va rencontrer une des étincelles de l'âme, c'est-à-dire une des portions de l'âme qui réside, de par les lois alchimiques, qui réside à l'intérieur de ce chakra pour animer le chakra et pour pouvoir être là afin de reprendre les énergies de la matière et les remporter au cœur de l'âme. Si l'on imagine une âme hors du corps, dans une autre dimension par exemple. Alors vous pouvez me dire à ce niveau du discours, mais s'il y a l'âme d'un côté, les énergies de la matière de l'autre, qu'est-ce que cela veut dire l'incarnation? Pourquoi est-ce qu'il y a ces deux énergies différentes et pour quel but? Comme je le dis si souvent, je vais le répéter pour vous, je ne veux pas parler de la cause première de l'incarnation, de la cause première du jaillissement de l'âme hors du sein de Dieu pour connaître les incarnations. Nous allons prendre l'âme au moment où elle a accepté d'être projetée. Cette âme donc a accepté l'aventure dans la matière et elle en a besoin. Elle va essayer de s'alourdir au fur et à mesure qu'elle va rencontrer les différentes dimensions. À l'origine, pur esprit, on pourrait imaginer une bulle sans poids. Elle va petit à petit, en passant à travers les diverses dimensions qui l'amènent vers la matière, elle va petit à petit se charger de tous les atomes qu'elle va rencontrer dans ces dimensions. C'est-à-dire que l'on pourrait imaginer une zone pur esprit où il n'y a aucun atome, simplement un certain état d'être. Puis commence, grâce au seuil de la manifestation qui est comme une frontière entre l'esprit et le monde, l'esprit et la matière, l'esprit et le manifesté, il y a donc après ce seuil des zones différentes avec des épaississements chaque fois plus gros et plus concrets en atomes. Imaginons donc qu'après cette zone de pur esprit, il y ait une première zone de manifestation où les âmes extériorisées ne vont rencontrer qu'un atome et elles vont fixer cet atome sur leur substance. Puis elles continuent à descendre, elles rencontrent une autre zone et là il y aura peut-être 4 atomes. Et elles vont fixer ces 4 atomes dans leur substance. Ensuite, les âmes continuent leur descente et elles rencontrent dans toutes les zones successives de plus en plus d'atomes, de plus en plus d'atomes jusqu'à aboutir un jour à un fourmillement étonnant d'atomes compressés, comprimés, condensés et c'est la matière. C'est ce que l'on appelle le physique, le corps. Dans sa descente, donc, l'âme n'aura fait que se charger de millions et de milliards d'atomes. Au fur et à mesure de cette descente, ce qu'il faut aussi concevoir, c'est que lorsque des groupes d'atomes sont accolés à la substance de l'âme, il ne faut pas voir cela comme autant de petits points ou de petits poids sur le manteau ou sur la boule de l'âme. Chaque fois qu'il y a des atomes qui viennent se coller à la substance de l'âme, il y a rétrécissement d'une partie de l'âme. Les atomes agissent en quelque sorte comme des mains qui seraient là pour prendre l'âme. L'âme étant trop dilatée, elle ne donne à cette poignée de main qu'une portion de son être. Ce qui fait que les atomes ne détiennent qu'une part de la conscience qui, elle, demeure intégrale au seuil de la manifestation. Donc, au fur et à mesure de sa descente vers la matière, au fur et à mesure de son habillage avec ses manteaux d'atomes, il y a aussi rétrécissement de la quantité, si je puis m'exprimer ainsi pour créer une image correcte, il y a aussi le rétrécissement de la quantité de l'âme qui descend dans ces plans. Ce qui ne veut pas dire que l'âme, si elle mesure par exemple, prenons une forme géométrique, si l'âme mesure un certain volume dans son ciel spirituel, lorsque l'on va la concevoir sur le plan physique, elle ne fera que le tiers de ce volume sur le plan physique. Il ne faut pas le voir en quantité, mais plutôt en qualité. Lorsque donc l'on prend l'âme au moment de l'aboutissement dans la matière, la qualité de cette conscience aura été fort entamée. Ce qui ne veut pas dire que la conscience qui est restée non altérée dans son royaume est une pure conscience divine. Comme je l'ai déjà dit si souvent, s'il y a incarnation, c'est bien parce qu'il y a un besoin, une certaine raison. Et cette raison, je l'ai nommée souvent comme étant la recherche du pouvoir, donc de la dynamisation de la conscience. La conscience dans son royaume est une conscience absolue, certes, mais une conscience qui s'ignore, comme je l'ai dit si souvent. Donc il va falloir qu'elle acquière de plus en plus de connaissances d'elle-même. Et ce n'est qu'en passant par l'individualité que cela est acquis. Pour passer par l'individualité, il faut donc passer par un passage étroit. Le corps, le plan physique, représente ce passage étroit. Mais il n'y a pas que cela que l'âme vient chercher dans la matière. Au contact de la matière, il y a le déclenchement d'un feu extraordinaire, qui est le feu que l'on appelle, entre autres, celui de la Kundalini. C'est le feu de l'esprit, le feu de la vie, le feu de la conscience elle-même. Alors que dans son royaume, elle n'est qu'un état et pas un pouvoir. En rentrant dans la matière, la conscience devient un état plein de pouvoir grâce au feu de la matière. Et ce feu est donné comme un cadeau par la matière elle-même, par la nature. Et c'est là le grand apport que fait la nature à la conscience divine. C'est pourquoi vous verrez toujours dans toutes les représentations ésotériques des dieux, vous verrez toujours le principe masculin et le principe féminin. Ce qui ne veut pas dire que dans le royaume des dieux, l'on a d'estime autant pour les hommes que pour les femmes. Cela n'a rien à voir avec la différence des sexes. Cela est uniquement au niveau vibratoire. Ce qu'il faut donc comprendre, donc, quand le dieu masculin et le dieu féminin sont représentés, et lorsqu'ils sont représentés ensemble, ce qu'il faut comprendre, c'est que la conscience, déterminée comme un état, a besoin de la matière qui est déterminée comme un feu. L'un sans l'autre, la vie ne peut pas avoir lieu. Et c'est pour cela que la conscience, qui est déterminée comme un état, a besoin périodiquement de se replonger dans la matière pour aller à la base même du feu et prendre ce feu, pour continuer à être un Dieu. Sinon, Dieu ne serait plus Dieu. Un Dieu qui perdrait son pouvoir, qui perdrait son feu, ne serait plus un Dieu. De la même façon que l'homme meurt à la fin d'un certain âge, Dieu mourrait aussi. Exactement de la même manière. Le feu, c'est la vie. La substance de la vie, c'est la conscience. Mais le feu est la vie, comme le sang est votre vie. On peut dire, la vie ne peut avoir lieu que par l'âme, c'est certain. Mais que ferait l'âme d'un corps où le sang ne circule pas? Rien. Essayez d'introduire une âme humaine dans un rocher. Vous verrez que même à grands coups d'incantation et d'évocation magique, vous n'arriverez pas à incarner une âme humaine dans un rocher. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur du rocher, il n'y a pas ce feu liquide que représente le sang. Le sang est une des merveilles les plus extraordinaires du corps humain. Tout le monde trouve que la vie est merveilleuse, c'est certain, parce que l'on conçoit la complexité des organes, la complexité de leurs fonctions. Mais il y a quelque chose de plus extraordinaire à la fonction des organes. Il y a la nature du sang, le grand pouvoir que représente le sang. Et c'est pourquoi le sang est toujours pris comme symbole à l'intérieur des religions, que ce soit la religion catholique, mais aussi toutes les autres religions. Et c'est pourquoi aussi, même à l'intérieur de certains rituels magiques, que ce soit de magie noire ou de magie grise ou de magie blanche, il y a aussi parfois l'utilisation du sang. Et pourquoi? Parce que le sang est la représentation la plus solide du feu de la vie. C'est du feu liquide. Et c'est pour cela qu'il transporte autant les vibrations de l'individu et qu'il est autant en connexion avec l'âme de l'individu. Autrement dit, quand vous versez votre sang pour quelqu'un, il est vrai que vous donnez votre âme pour quelqu'un. Et c'est dans ce sens que tous les grands initiés et que ceux que l'on appelle les messies, c'est dans ce sens qu'ils ont versé leur sang. Pas simplement pour livrer leur chair aux hommes, se sacrifier pour l'avancement des hommes, mais aussi pour qu'à l'intérieur de ce sacrifice, grâce à ce sacrifice par le sang, leur âme puisse se déverser comme un rayonnement d'atomes sur les âmes des individus alentour. Il ne s'agit donc pas bêtement de donner son sang, mais par le don de son sang, donner le feu de l'âme, le feu liquide de l'âme, le feu de l'âme dans un conditionnement le plus physique possible. Lorsqu'il y a donc des problèmes avec votre sang, sachez que c'est un peu quelque part aussi votre âme qui a des problèmes avec son feu. Et c'est pourquoi quelqu'un qui a des problèmes avec son sang, soit parce qu'un sang ne circule pas ou ne circule plus, ou soit parce qu'un sang est pauvre, ou soit parce qu'un sang est malade, si quelqu'un a donc des problèmes avec son sang, il a aussi des problèmes avec son âme. Pourquoi ? Et ne voyez pas là une image forcément karmique. Même si le problème est d'ordre génétique, cela va impliquer des problèmes avec l'âme. Parce qu'étant donné que l'âme va suivre pour entrer profondément dans la matière, en contact avec sa matière, en contact avec le monde, étant donné que l'âme va donc suivre le circuit du sang, si le sang qu'elle rencontre est pauvre, elle ne va pas pouvoir envoyer l'entier de ses énergies ni vivifier son corps par l'entier de ses énergies. C'est pourquoi généralement ceux qui ont des problèmes avec le sang, un sang pauvre ou un sang qui circule mal, ont aussi des problèmes de vitalité. Parce que tout simplement, ils ne reçoivent pas l'entier des énergies de l'âme. Pour recevoir l'entier des énergies de l'âme et être un individu dans la mesure où vous avez suffisamment dormi, où vous prenez la nourriture qu'il vous convient, pour être donc un individu toujours plein de vitalité et de force et de résistance, il faut penser à entretenir votre sang. Parce que votre sang va recueillir les énergies de votre âme. Comment est-ce que l'on va entretenir le sang? Il y a d'une part l'alimentation, c'est certain. Il y a d'autre part, et de façon plus importante, la respiration. Celui qui ne respire pas bien ne va pas pouvoir dynamiser son sang. Car la respiration dynamise le sang encore plus que l'alimentation. Il est donc capital pour vous d'apprendre à bien respirer, d'apprendre à développer une certaine stature, une certaine position de votre cage thoracique pour que votre respiration puisse être libre, pleine et qu'elle puisse apporter au sang tout l'oxygène et aussi tous les divers éléments, les divers gaz dont il a besoin. Il est donc capital pour ceux qui vivent constamment en ville, par exemple, et surtout à l'intérieur de bureaux fermés ou d'appartements fermés, il est donc capital pour ces individus-là de sortir le plus souvent possible à la campagne ou dans un jardin ou dans un parc, même si ce parc ou ce jardin se trouve en ville. Pourquoi est-ce qu'il est capital d'aller dans un jardin ou dans un parc? Tout simplement parce que le dégagement des plantes, le dégagement des arbres, le dégagement des fleurs, mais aussi le dégagement de la terre, du sol lui-même, apporte des molécules qui viennent du prana solaire. Je m'explique. Le rayonnement solaire, que l'on peut aussi appeler le prana solaire, l'énergie vitale, donc rayonne le soleil, passe à l'intérieur de tout et se dépose en tout, comme une eau qui glisse et qui laisse la partie où elle a glissé toute mouillée. Donc le prana solaire se dépose sur les murs, se dépose en vous, se dépose autour de vous, se dépose sur les arbres, sur les fleurs et se dépose en dernier lieu, en chute, dans le sol. Si vous êtes dans des bâtiments, les bâtiments vont dans une certaine mesure capter ce rayonnement solaire. Mais dans la mesure où les bâtiments modernes ne sont pas équipés pour conserver ce rayonnement solaire, le rayonnement solaire ne fait que ricocher en fait et ne reste que peu de temps à l'intérieur des murs. C'est pourquoi les individus qui vivent à l'intérieur des bâtiments modernes, qui y travaillent, sont privés de prana solaire. Le prana ne passe que faiblement et ne peut pas rester dans les murs pour constituer une aura au bâtiment. Autrefois, l'on savait bâtir les maisons de la sorte, de façon à ce que les murs soient de véritables capteurs du prana solaire. Ainsi, à l'intérieur des maisons, même si ces maisons n'avaient aucune fenêtre, à l'intérieur, la vie y était saine, fraîche. Et tous les hommes s'y sentaient bien, comme s'ils se trouvaient en montagne ou dans une forêt. Le type de construction est très simple. Il ne s'agit pas d'inventer des pentacles ou d'inscrire des mantras sur les murs. Il s'agit tout simplement de choisir les matériaux adéquats. Quelles substances dans la nature, quels matériaux dans la nature sont les plus capteurs de l'énergie solaire? Il y a en premier lieu le plus facile à utiliser, le bois bien sûr. Mais il y a aussi certaines pierres, les pierres très dures comme le granit, les vieilles roches très compactes. C'est pourquoi les maisons anciennes, qui étaient bâties uniquement avec des grosses pierres dures et compactes et épaisses, ces maisons-là pouvaient énormément capter le prana solaire et le diffuser comme un baume de santé sur les habitants. Aujourd'hui donc, puisque les maisons ne savent plus capter le prana, mais qu'en plus elles renvoient le prana, il est donc capital pour vous d'aller au moins une fois par jour vous promener un peu près d'un jardin ou dans un parc, et au moins une fois par semaine d'aller vraiment dans la nature. Pourquoi? Pour pouvoir bénéficier de cet apport du prana solaire. puisque pendant toute la semaine, vous en êtes privé. Quel avantage y a-t-il ? L'avantage est que l'individu qui va se recharger au contact de la nature de cette façon-là va permettre à son sang de se dynamiser, de se vivifier vibratoirement d'abord et ensuite d'avoir tout l'apport en oxygène dont il a besoin. Car le sang et l'oxygène sont deux amis très serrés qui ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Ce qui ne veut pas dire que c'est l'oxygène pur qui est important au sang, absolument pas. Car à l'intérieur du sang, l'oxygène se transforme en une autre substance, que l'on ne connaît pas encore d'ailleurs, mais que l'on découvrira plus tard, et que l'on comprendra comme étant en fait l'élément dynamisant du sang. L'élément qui permet donc à l'individu de pouvoir toujours compter sur sa bonne santé, sa résistance, et de prolonger sa jeunesse. Lorsque vous respirez l'oxygène dans l'air alentour, il faut comprendre que cet oxygène, s'il n'est pas au contact du prana solaire directement, est un oxygène relativement mort. Si au contraire vous allez absorber l'oxygène au contact des éléments de la nature, donc un oxygène qui a été prédigéré par la nature et qui est renvoyé simplement par rayonnement, et comme un rayonnement, et c'est cette transformation-là qui s'opère aussi à l'intérieur du sang, puisque le sang n'est pas directement en contact avec l'oxygène, mais transforme l'oxygène exactement comme les végétaux transforment l'oxygène, pour pouvoir en tirer justement une substance qui est la base même de leur vie. Et le déchet qu'extériorisent les végétaux, ce déchet-là, justement, c'est ce qui est en trop à l'intérieur de l'oxygène. Donc, ce qu'il faut comprendre dans le rapport avec la nature, le sang, la nature et l'homme, c'est que dans la mesure où vous captez la vitalité des végétaux, le rayonnement solaire qui est passé et qui a été d'une certaine manière typifié par les végétaux, ce rayonnement va vous apporter directement une sorte de sirop de jouvence. Pourquoi ? Parce que c'est un rayonnement qui a été adapté pour donner une santé à l'homme. L'homme, lorsqu'il se promène simplement dans la nature, peut bien sûr capter le rayonnement solaire. Lorsque vous êtes dans la rue, vous êtes en face du soleil et vous pouvez capter un rayonnement solaire, c'est certain. Cependant, vous n'allez pas être autant dynamisé que si vous allez aller dans une forêt, que si vous allez aller dans un jardin près des fleurs. Faites l'expérience. Lorsque vous êtes sur la plage, vous avez un soleil immense, très fort, qui est sur vous. Et dans la journée, ou à la fin de la journée, vous ne vous sentez pas pour autant plus spécialement en forme ou vivifié. Par contre, vous allez dans une forêt ou dans un jardin, et en une heure de promenade, vous vous sentez extrêmement dynamisé. Qu'est-ce qui fait la différence et pourquoi est-ce qu'il y a cette différence ? Tout simplement parce que le soleil envoie un rayonnement tous azimuts, de toutes sortes d'énergie, de toutes sortes de rayonnements, toutes sortes de prana en fait. Et l'homme, dans la mesure où il est un homme normal, un homme d'évolution moyenne, l'homme ne peut pas absorber l'entier de ces rayonnements. C'est impossible. C'est exactement comme si vous voudriez faire entrer un litre d'eau dans une toute petite tasse. Et si vous vous évertuez à verser, à verser, à verser le litre d'eau, eh bien, le surplus de liquide va tout simplement déborder et glisser sur les côtés, et dans la tasse, il n'y aura jamais que le contenu d'une tasse. Pour l'être humain, c'est la même chose. Le soleil a beau envoyer des énergies de toutes sortes, même les énergies qui pourraient le rendre éternel, si l'individu n'est pas suffisamment développé ou ne travaille pas dans le sens d'intégrer toutes ces énergies, eh bien les énergies du soleil vont déborder hors de lui, vont ricocher hors de lui et ne pas entrer en lui. C'est pourquoi, en passant par l'intermédiaire de la nature, il va pouvoir bénéficier d'un apport supplémentaire d'énergie. Parce que la nature va absorber une autre catégorie de rayonnement, une autre catégorie de prana, un autre degré vibratoire que l'homme ne peut pas absorber directement. Car s'il le faisait, son corps éthérique, par exemple, serait brûlé, ou son corps astral, ou un de ses chakras, ou l'entier de son corps physique. Les règnes sont là pour capter, chacun à son tour, une certaine gamme de vibrations en provenance du soleil. C'est pourquoi tous les règnes sont nécessaires les uns aux autres et que le contact avec tous les règnes est absolument nécessaire pour la survie des uns et des autres. Car vous prenez par exemple le rayonnement d'un homme, son rayonnement va être typique et limité à une certaine catégorie de vibrations. Mais pour vivre, cela ne lui suffit pas, il lui faut les autres vibrations. Vous prenez le règne végétal, et vous allez remarquer que ce règne absorbe une certaine catégorie de vibrations. Mais pour vivre et se développer correctement, le règne végétal a besoin aussi d'autres vibrations qui sont, comme par hasard, fournies par un autre règne, que ce soit les animaux ou les cristaux ou les hommes. Et ainsi de suite, chaque règne donne à l'autre règne une vibration qu'il n'a pas pu capter directement, soit parce que la vibration était trop basse et ne correspondait plus véritablement au degré d'avancement de l'individu, et dans ce cas la vibration basse doit être absorbée, redynamisée, retraitée, raffinée et distribuée donc un ton au-dessus à l'homme, soit parce que la vibration était trop haute et qu'il fallait à ce moment-là un transformateur. C'est ce que font les végétaux. Les végétaux sont des transformateurs. Ils absorbent donc une gamme de vibrations qui est légèrement au-dessus en densité à la gamme de vibrations qu'absorbent les hommes. Ce qui ne veut pas dire que les végétaux sont supérieurs aux hommes. Ce qui veut dire simplement que les végétaux, étant physiquement différents, organiquement différents, cela leur permet d'absorber une autre gamme de vibrations. C'est pourquoi sur les autels des églises et de toutes les religions, vous allez trouver toutes sortes d'offrandes. Il y aura la présence des végétaux par un bouquet de fleurs. Il y aura la présence des minéraux par la constitution de l'autel qui souvent est en pierre ou simplement la présence de minéraux eux-mêmes. Il y aura la présence aussi de l'air, qui n'est pas simplement l'air ambiant, qui doit être aussi symbolisé vibratoirement par les colonnes d'encens. Il y aura les vibrations de tous les autres rayonnements qui sont inclus dans le soleil par tous les apports des disciples, par tous les éléments que vous ne pouvez pas toujours bien distinguer. Ce qui compte donc pour être un être qui met de son côté toutes les chances d'évoluer et qui met de son côté tous les outils pour pouvoir bien construire son temple. Ce qui compte donc, c'est de marcher ensemble, main dans la main, avec la planète, avec l'univers. Un homme ne peut pas, simplement par ses méditations, fièrement aller retrouver Bouddha. C'est impossible. Cela n'a jamais eu lieu de cette manière. Un homme a besoin d'inclure diverses énergies. Les énergies qui lui proviennent, comme je vous l'ai dit, non seulement de tous les règnes, mais aussi au niveau des libérations spirituelles, des initiations spirituelles, mais aussi les énergies qui proviennent d'autres planètes, d'autres étoiles, voire même d'autres galaxies que l'on doit à ce moment-là voir uniquement comme un seul et même plexus. C'est pourquoi l'évolution d'un homme est si difficile à contrôler et à vivre alchimiquement. C'est pourquoi votre vie paraît si douloureuse. Parce que vous n'avez pas simplement à comprendre quelque chose, à admettre que les maîtres existent, à admettre que les guérisseurs existent, à admettre que Dieu existe. Il vous faut aussi petit à petit intégrer, absorber toute une gamme d'énergies, des énergies qui se trouvent pour l'instant éparpillées aux quatre coins du monde et de l'univers, mais qui sont pour autant vous-même. Cela ne veut pas dire qu'elles ne sont pas vous-même parce qu'elles sont éparpillées dans l'univers. Car l'univers étant l'expression d'un seul et même Dieu, et vous-même étant l'expression de ce seul et même Dieu, vous trouvez à l'extérieur de vous tout ce qui vous constitue aussi de par l'intérieur. Mais pendant ce temps de la remontée que l'on appelle l'évolution, comme l'homme ne peut pas capter directement ou intégrer directement les énergies, il va devoir aller rencontrer ce qu'il est lui-même à l'extérieur de lui-même, par l'intermédiaire des éléments de sa planète ou des éléments extraplanétaires comme les planètes, les étoiles et plus loin les galaxies. Ce qui fait que, au début, dans une évolution que l'on peut caractériser comme essentiellement au niveau planétaire, typique donc à la planète, au début donc de cette évolution, l'homme va essayer d'intégrer les quatre éléments de sa planète Terre. Et regardez comme cette chose est déjà difficile. Regardez comme pour l'homme traditionnel, il est déjà tellement difficile de savoir intégrer la vibration véritable que représentent l'eau, la terre, le feu, etc. Regardez comme il est difficile de contrôler aussi l'équivalence vibratoire de ces éléments en vous. Regardez comme il est difficile de contrôler vos émotions, par exemple, qui est l'équivalence vibratoire de l'élément eau que l'on trouve à l'extérieur et que l'on trouve aussi à l'intérieur de votre corps. Dans son expression primaire, l'élément eau va être de l'eau. Dans son expression un petit peu plus subtile, cette eau va être de la nature astrale, soit le monde que l'on appelle classiquement celui des émotions. Comment est-ce qu'une chose qui est physiquement de l'eau va pouvoir être dans une dimension supérieure une émotion? C'est un casse-tête, n'est-ce pas? Comment arriver à le comprendre? Même en essayant de forcer les concepts, on n'y arrive pas. Si l'on n'arrive pas à comprendre cela, eh bien on ne comprend pas non plus pourquoi, avec de l'eau, un prêtre arrive à exorciser les mauvaises pensées d'un individu, arrive à calmer une dépression nerveuse ou une colère. On ne comprend pas non plus pourquoi, en aspergeant de l'eau sur un autel, on arrive à en chasser tous les mauvais esprits de l'astral. Et alors le profane se gratte la tête et se dit « mais le curé est complètement fou ». Ou comme dit plus précisément la jeunesse actuelle, « ce curé déménage ». Qu'est-ce que l'eau peut avoir avec les esprits? Qu'est-ce que cela fait? Eh bien, l'eau arrive à chasser les mauvais esprits ou à dégorger le surplus d'émotions dans le corps astral d'un individu, simplement parce que l'eau est exactement le même élément que l'astral lui-même. L'astral pris dans sa vie complète, que ce soit l'astral émotionnel qui est votre astral ou l'astral planétaire qui est donc la zone de vie où l'on pourra rencontrer toutes sortes d'esprits et parfois des mauvais esprits. Il y a une règle dans une certaine médecine qui dit chasser le mal par le mal. Eh bien en alchimie c'est exactement la même chose. Si vous voulez chasser l'astral, eh bien il faudra employer aussi l'élément astral. Mais dans une forme qui sera un peu plus dense et qui sera purifiée. Donc, avec de l'eau. Et de l'eau qui aura été consacrée pour cela, comme savent le faire les prêtres ou les hommes qui se sentent avoir ce pouvoir-là, pour purifier, pour dégager les vibrations parfois un petit peu négatives que l'on peut retrouver dans l'eau. Et ainsi de suite, on peut faire la comparaison et la transposition avec tous les éléments. Donc, quand vous contemplez en vous-même la difficulté qu'il y a à maîtriser ces éléments, nous parlons de l'eau pour l'émotion, vous comprenez à quel point il peut être difficile de pouvoir intégrer l'énergie qui vous vient par exemple de Saturne ou de Jupiter, de l'intégrer, mais en plus aussi de savoir la maîtriser, cette énergie, la concrétiser, l'épanouir, la rayonner. Vous pouvez concevoir combien il est encore plus difficile de pouvoir absorber et rayonner une énergie qui vient d'un soleil comme Sirius ou qui vient d'un système complètement différent et que vous devez pourtant absorber aussi un jour. Donc commençons par absorber, par intégrer, par maîtriser les éléments qui nous constituent journellement, quotidiennement et qui nous sont accessibles à tout moment. Dans certaines traditions, le disciple, pour être qualifié d'initié, devait démontrer qu'il avait maîtrisé en lui les quatre éléments par la maîtrise qu'il faisait sur les quatre éléments extérieurs de la nature. Si donc le disciple avait parfaitement maîtrisé l'élément eau qui est en lui, donc ses émotions, il devait pouvoir parfaitement maîtriser l'élément eau qui était dehors et pouvoir donc soulever la mer ou arrêter le cours d'un ruisseau ou le précipiter. De cette façon, il démontrait qu'il avait la puissance sur l'élément. Car en fait, c'est la même chose. Ce n'est pas simplement un symbole ou une analogie, c'est absolument la même chose. Si vous avez en vous la maîtrise sur un élément, vous détenez l'esprit de cet élément. Et l'esprit de cet élément, il vit à l'extérieur de vous, mais il vit aussi en vous. Donc, si vous détenez l'esprit de l'élément en vous, puisqu'il est le même à l'extérieur de vous, vous allez aussi détenir le pouvoir sur l'élément qui est à l'extérieur. Ce qui ne veut pas dire que tous ceux qui font montre d'un certain pouvoir peuvent être qualifiés d'initiés ou d'être parfaits. Car il y a une multitude de façons d'obtenir des pouvoirs. Mais les initiés de cette époque-là, l'ordre auquel je fais référence, n'admettaient qu'une seule façon de démontrer le pouvoir. Et c'était celle dont je viens de vous parler. Tandis qu'il existe d'autres écoles, il existe d'autres ordres qui savent passer à l'extérieur et même aller à l'encontre de toutes ces exigences pour obtenir un pouvoir malgré tout sur les éléments et sur les gens. Mais je ne vais pas parler de cela ce soir. Restons dans l'intégration du chemin, la concrétisation du chemin. Car il n'y a que cela qui soit en fait important pour vous. Il ne faut pas que vous sortiez de cette salle en connaissant beaucoup de choses. Si je pouvais au contraire passer dans vos esprits et vider tout ce que vous savez, je le ferais volontiers. Même si vous résistiez. Ce serait la meilleure des choses que je pourrais faire pour vous. Ce serait le plus grand service que je pourrais vous rendre. Videz votre esprit. Ne plus agir donc de par des références et des petits classeurs et des petits boîtiers et des petits dossiers. Mais être au contraire, même si c'est de façon nue et fragile, être au contraire chaque jour un être authentique, un être absolu qui prend la vie à bras le corps parce qu'il ne la connaît pas. Il y a une puissance extraordinaire dans la jeunesse que l'on ne retrouve plus tard, quand l'individu se trouve avancé dans l'âge adulte. Il y a donc une force extraordinaire dans la jeunesse qui est le fait de ne pas connaître la vie. Une jeune personne ne connaît pas la vie. Elle ne connaît pas ce que sont les méchants, ce que sont les gentils, ce qu'est l'argent, ce qu'est la société, ce qu'est le travail, ce qu'est l'effort, ce qu'est la valeur des choses. La personne ne connaît rien. Alors, affamée, elle se jette à corps perdu dans la vie pour tout rencontrer et tout connaître. Et le moment de l'adolescence, le moment de la jeunesse, représente pour chaque âme un énorme passage initiatique. C'est un moment initiatique très important, où l'âme peut redéterminer justement des façons de voir les choses par rapport à son ancienne incarnation. Peut se choisir un chemin différent par rapport à son ancienne incarnation. Peut donc complètement renouveler son univers par rapport à l'ancienne incarnation. Chose qui n'est plus du tout faisable ou difficilement faisable lorsque l'on prend un individu qui est trop mûr ou trop avancé dans l'âge. Ce qui ne veut pas dire que l'opération est impossible. C'est tout à fait possible. Vibratoirement, c'est possible. Sur le plan de la conscience, c'est possible. Par contre, sur le plan des résistances intérieures de l'individu, sur donc le degré de cristallisation qu'a atteint l'individu, par rapport à cette cristallisation-là, la chose devient beaucoup moins possible. C'est pourquoi si je pouvais brûler vos petits dossiers, vos petits casiers, vos petits classeurs là dans l'esprit, ce serait une des meilleures choses que je pourrais vous faire. Pourquoi ? Parce que tout simplement en une seconde, je vous permettrais de retrouver un âge adolescent, l'âge de celui qui ne connaît rien, qui va vers la vie en essayant d'apprendre ce qu'est la vie et de l'apprendre avec une vision nouvelle, ni préconçue, ni préfabriquée. Ce qui ne veut pas dire que la connaissance de l'expérience est inutile, au contraire. Un être expérimenté peut aboutir à un être avancé. Mais il se trouve que chez l'individu, l'expérience n'est pas toujours traitée de façon positive, donc de façon initiatique. Combien d'individus connaissez-vous ou combien de fois vous-même dans des situations vous avez réagi de façon non initiatique? C'est-à-dire que vous n'avez pas su prendre la part d'enseignement que vous donnez une situation qui même paraissait négative. Vous avez au contraire réagi par la frustration ou le traumatisme ou le complexe ou la peur. Et automatiquement, ces points noirs, ces points négatifs sont entrés dans votre esprit et typifient les réactions de vos journées, de votre vie quotidienne, typifient tout votre futur. Ce qui fait que, par exemple, un complexe engendré à l'âge de 25 ans ou de 28 ans va typifier tout le reste de votre vie jusqu'à ce que vous mouriez. L'adolescent qui ne connaît pas la vie, qui ne connaît donc pas encore ses complexes, les quelques complexes avec lesquels il est venu, les quelques complexes qu'il risque de se faire à cause de sa nature, cet individu est donc libre face à la vie et peut redéterminer ses attitudes face à la vie, car il n'est pas en attitude de défense. Pour être spirituel et pour avancer dans la spiritualité, je vous le dis, et je n'insisterai jamais assez là-dessus, même si je ne disais que ça, je veux que cela soit compris. Pour être spirituel dans la vie et pour travailler à la libération, à la liberté spirituelle, il ne faut pas avoir dans la vie une attitude de défense et être sans cesse sur la défensive. Ceux qui sont sur la défensive sans cesse sont ceux qui ont tiré des expériences une attitude négative. Il ne faut pas non plus basculer dans l'opposé, dans l'euphorie et dans un optimisme trop naïf et complètement utopique, complètement inconscient. Être positif, ce n'est pas être inconscient. Ce n'est pas arriver avec la marguerite dans la bouche en se disant que tout ira bien alors que tout s'écroule. Être positif, c'est être fort. Cela ne veut pas dire donc d'être rêveur, d'être fantaisiste. Être positif, c'est être fort. Qu'est-ce que je veux dire par être fort? Quand je dis fort, je ne veux pas dire que vous allez sortir de votre caractère l'énergie du volcan. parce que ceux qui se sentent de petits caractères ou de petites constitutions ou de petites résistances ne vont pas sentir en eux l'écho de ce que je dis. Un être, aussi petit soit-il, peut déclencher sa force, car il a en lui une force extraordinaire. De quelle manière va-t-il la déclencher ? Tout simplement en ne regardant pas le négatif, en ne dévisageant donc pas non plus le positif, mais en ayant soin quand même de ne pas observer ce qui serait négatif, et en tenant à l'intérieur la poignée de main de l'âme. C'est là toute la différence. Un homme n'est pas fort parce qu'il va être fort de caractère. Cela, je l'ai déjà dit 1000 fois, mais je le répète pour vous. Un homme n'a aucune force dans son caractère. Et j'en fais la preuve que vous pouvez observer autour de vous ou entendre dire autour de vous que des êtres forts se sont parfois soudainement écroulés. Mais je ne comprends pas, celui-là vient de se suicider, mais il paraissait si fort. Ou bien tiens, parce qu'il a perdu toute sa fortune, il est allé se noyer dans le fleuve. Ou tiens, parce que sa femme l'a quitté, il est allé dans sa chambre et s'est tiré une balle dans la tête. Ou tiens, parce qu'il est au chômage, il perd complètement confiance en lui, alors qu'avant il était très rayonnant, très sûr de lui. La force, la vraie, la pure force, ne vient pas du caractère. Donc, des points de domination